Bien, donc bonsoir à tous. Alors, pour ce premier cours du semestre en Nouveau Testament niveau 3, nous allons, d'ailleurs tout au long du semestre, entrer dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse de Saint Jean le théologien, comme on l'appelle. Alors, vous le savez tous, dans la Bible chrétienne, le livre de l'Apocalypse de Saint Jean le théologien est le dernier livre, celui qui clôt la Bible, et on verra qu'il est aussi à mettre en résonance avec le premier livre de la Bible, la Genèse, on le verra par la suite. Mais d'abord, il faut se poser la question, quant à l'étymologie, qu'est-ce que signifie le mot apocalypse? Eh bien, ce substantif apocalypsis, il est formé à partir d'un verbe grec, apokalypto, qui signifie révéler, découvrir, dévoiler. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est tout à fait justement traduit par révélation. Et ce terme, on le retrouve à peu près, je crois, une vingtaine de fois dans le Nouveau Testament, à la fois chez Saint Luc et dans les épîtres de Saint Paul. Et puis, il a aussi son pendant dans l'Ancien Testament et notamment dans le livre de l'Exode, Gala. Livre de l'Exode, donc on trouve ce terme Gala. Alors, vous le savez tous, ce livre de l'Apocalypse a fait couler beaucoup d'encre, et puis il faut tout de suite dire que son commentaire n'est pas chose aisée, comme nous le verrons, parce qu'il utilise, comme c'est une prophétie, comme c'est une de révélation, eh bien, il utilise un langage particulier, un langage hautement symbolique, qu'il convient, bien oui, de décoder, si on peut employer cette expression. Donc, les visions de l'Apocalypse ne sont pas nécessairement aisées à commenter. Alors, dans ce parcours, dans la bibliographie de ce parcours, je retiendrai trois livres. C'est pas exclusif, hein, je serai amené du semestre à France, mais il y a le livre du père Serge Bulgakov, l'Apocalypse de Jean, qui est paru, je crois, il y a un an ou deux. Il y a celui d'un professeur de la faculté de théologie de l'Université de Strasbourg, Pierre Prigent, l'Apocalypse, qui est paru aux éditions... Alors oui, l'Apocalypse de Jean de Père Serge Bulgakov est paru aux éditions Parole et Silence. Celui de Pierre Prigent est paru aux éditions Labor et Fides, il y a assez longtemps d'ailleurs, mais il a fait l'objet de rééditions. Il y a un autre livre que je viens d'acquérir il y a peu, celui de Philippe Plet, PLET, Les grandes énigmes de l'Apocalypse, donc qui se penche plus spécifiquement sur le langage symbolique de l'Apocalypse, et d'après ce que j'ai vu, c'est un travail tout à fait intéressant. Et je me servirai également des travaux sur l'Apocalypse du professeur Claude Tresmontant, et en particulier de son volume Enquête sur l'Apocalypse. Voilà. Bon, mais comme je viens de le dire, c'est pas une bibliographie exclusive, je serai amené à donner d'autres références. Alors, on va commencer par le commencement en se posant la question de savoir qui est l'auteur de l'Apocalypse. En interrogeant le texte lui-même, est-ce que l'on peut avoir une réponse ? Alors, je cite un verset. « Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Alors, c'est le verset, que je ne dise pas de bêtises. C'est le verset 9. Je vais revenir tout à l'heure sur les 11 premiers versets pour commencer, et je les citerai intégralement. Mais là, c'est le verset 9. « Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Rappelons donc que les chrétiens de ce temps, ils sont dans la tribulation, la persécution, qui est un phénomène endémique à l'époque, et pas seulement à l'époque d'ailleurs, la persécution est toujours tout au long de l'histoire de l'Église du Christ. Et ils sont persécutés parce qu'ils appartiennent au Christ, qui est le Seigneur et le Roi, et qu'ils espèrent dans la venue du Christ dans la gloire. Autrement dit, dans son retour. Et on sait que, en ce temps-là, son retour était espéré très rapidement. Alors, Jean est exilé dans l'île de Patmos, sous Domitien, à qui nous devons une très violente persécution contre les chrétiens. Et je rappelle que l'île de Patmos, en ce temps-là, c'est un bagne impérial. Vous savez, Patmos, c'est une toute petite île de la mer Égée, mais à ce moment-là, c'est un bagne impérial où sont relégués bon nombre de fidèles du Christ et qui sont soumis, d'ailleurs, à des travaux forcés. Alors, selon Eusèbe de Césarée, nous connaissons Eusèbe de Césarée, c'est le plus important historien de l'Église ancienne, Jean sera relâché par l'empereur Nerva, donc entre 96 et 98, et il reviendra à Éphèse. Et ce Jean, qui se nomme comme tel dans l'Apocalypse, ne donne toutefois pas de détails. Il dit « Moi, Jean ». Mais qui est ce Jean ? Alors, pour répondre à cette question, disons que bon nombre d'écrivains chrétiens de ce temps attestent que ce Jean, qui se nomme, et qui est exilé à Patmos, est bien l'apôtre. Et bien l'apôtre, celui à qui nous devons l'Évangile, le quatrième du nom, le fils de Zébédée, et à qui nous devons également les trois épîtres. Et c'est bien cet apôtre Jean qui passa ses dernières années de vie à Éphèse, la grande métropole d'Éphèse, et de fait, nous savons que l'apôtre Jean jouit d'une très haute autorité apostolique. Nous le savons de plusieurs manières, mais je rappelle que nous l'avions vu l'an dernier dans le cours sur les épîtres de Jean. épître qui était adressée aux églises de l'Asie proconsulaire, donc qui correspond à l'Asie mineure, le territoire à peu de choses près, une bonne partie du territoire de l'actuelle Turquie, et où Jean parle avec toute l'autorité du pasteur qu'il est et toute son autorité apostolique. Et les adresses, donc, que nous trouvons au début du livre de l'Apocalypse, les adresses aux sept églises sur lesquelles nous reviendrons, eh bien, elles montrent, entre autres choses, une excellente connaissance de la situation de ces églises. Il y a une adresse à sept églises, mais au travers les sept églises qui sont nommées, et l'utilisation du chiffre 7, évidemment, ce message va beaucoup plus loin que ces sept églises, en fait, et s'adresse à toutes les églises du Christ. Donc, toujours dans l'objectif de répondre à la question « Qui est l'auteur de l'Apocalypse ?», eh bien, je rappelle que Jean a l'habitude de faire appel à son propre témoignage. Il est dit au verset 2, hein, premier chapitre de l'Apocalypse, « Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. » Et dans l'Évangile, il utilise aussi ce fait de faire appel à son propre témoignage. Nous en trouvons une attestation dans le récit de la crucifixion du Christ, nous l'avions vu également, dans ce verset qui nous est bien connu. Je cite « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, son témoignage est véridique, afin que vous croyiez aussi. » C'est en Jean 19, verset 35. Et c'est répété donc en 21-24, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est véridique. 21, donc verset 24 de l'Évangile, là. Ce « nous » est employé parce que le témoignage des apôtres, évidemment, sur cet événement central, eh bien, ce témoignage est unanime. Hein, il est bien évident que les apôtres parlent unanimement. Alors, le troisième témoignage, s'il en était besoin, que nous trouvons dans la première épître de Jean, dans le premier chapitre, et au tout premier verset, je cite, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, vous voyez, là encore, c'est ce que nous avons vu hein, à la fois dans l'Évangile, dans les Épîtres, dans l'Apocalypse. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. » Ça, c'est donc dans la première Épître de Jean, premier chapitre, verset 1. Alors, nous reviendrons, parce que ce n'est pas encore tout à fait le moment, sur tout ce qui milite en faveur de l'attribution aux disciples bien-aimés de l'ensemble constitué par le quatrième évangile, les trois épîtres et l'Apocalypse, et de justifier, de donner les éléments qui fondent cette affirmation. Mais d'abord, venons sur le témoignage des pères. Le témoignage des pères, il est tout à fait décisif. Le témoignage des pères, il va quasiment unanimement dans ce sens. Papias de Hierapolis, qui est un disciple de Saint Jean, eh bien, lui, il rend témoignage du fait que la révélation qui est faite à Saint Jean est faite à qui est faite à Jean, pardon, est faite à Saint Jean l'apôtre, et que de ce fait, cette révélation est revêtue d'une autorité divine. C'est ce que nous dit Papias de Hierapolis. Justin Martyr, vers 130-140, l'atteste également, atteste la même chose que Papias de Hierapolis dans le dialogue avec le rabbin Tryphon. Irénée de Lyon, Saint Irénée de Lyon, écrit dans le Contre les Hérésies, Jean, disciple du Seigneur, a contemplé dans l'Apocalypse l'avènement sacerdotal et l'arrivée sacerdotale et glorieuse du règne du Christ. Ainsi que, d'ailleurs, pour ce témoignage, pour un autre témoignage, Eusèbe de Césarée, dans son histoire ecclésiastique, le rapporte également. Alors, il y a d'autres témoignages, comme ceux de Théophile d'Antioche, de Méliton de Sardes, d'Apollonius d'Éphèse, en Occident, Hippolyte de Rome, dans un livre écrit contre le prêtre Caius, qui niait l'authenticité apostolique du livre. Donc, Hippolyte de Rome la confirme, et en attestant que c'est bien le disciple bien-aimé, l'apôtre et évangéliste Jean, qui est l'auteur de l'Apocalypse. Un peu plus loin dans le temps, au IIIe siècle, Origène affirme que l'auteur de l'Apocalypse est bien le disciple bien-aimé, et Cyprien de Carthage, dans son exhortation aux martyrs, fera de même. Et puis, dans les années passées, nous avions évoqué dans un formation du canon biblique et cité un document qui se nomme le canon de Muratori, donc du nom de celui qui a découvert ce canon du IIe siècle, qui cite les livres bibliques, et j'ai appris qu'il n'y a pas très longtemps, la datation première qui était plutôt dans le deuxième tiers du IIe siècle du canon de Muratori a été avancée. Il y aurait eu des éléments nouveaux pour avancer dans la première moitié du deuxième siècle le canon de Muratori. Alors, bien sûr, il y a eu des oppositions, parce que bon, vous savez qu'il y a eu discussion sur l'intégration de l'Apocalypse dans le canon biblique. Le texte de l'Apocalypse a été admis très rapidement par les églises d'Occident, mais il y a eu discussion parmi les églises d'Orient, et puis les choses se sont résolues, puisque unanimement, le texte de l'Apocalypse figure dans tous les canons bibliques. Quand je dis tous les canons bibliques, je rappelle que j'emploie ce pluriel parce que il y a des traditions particulières à des églises locales et tous les canons bibliques ne sont pas strictement identiques. Mais en tout cas, l'Apocalypse est partout. Il y a une opposition au IIIe siècle qui est celle de Denis d'Alexandrie, qui lui l'attribue, il y a deux hypothèses, soit à l'évangéliste Marc, soit à un mystérieux prêtre Jean, dont en vérité on ne sait absolument rien. Et cet argument du mystérieux prêtre Jean sera repris dans la période moderne, comme nous serons amenés à le voir, à propos du style de l'Apocalypse, parce que cette opposition s'est construite sur un certain nombre d'arguments, et en particulier sur la différence de style qu'il y a entre le quatrième évangile, l'évangile de Jean, les lettres, les épîtres, les trois épîtres, et le style du livre de l'Apocalypse. Et puis, un autre argument de cette opposition, j'en parlerai dans le corps du cours, hein, je veux dire, c'est pas l'essentiel de ce que je veux dire, mais quand même un autre argument est bon à citer, c'est que contrairement aux prophéties de l'Ancien Testament, où les prophètes se nomment pour attester, garantir la révélation dont ils sont amenés à rendre compte, dont ils ont ordre de rendre compte de la part de Dieu, eh bien là, l'auteur ne se nomme pas de manière à ce que, disent-ils dans cet argument qui refuse l'attribution aux disciples bien-aimés, ne se nomme pas de manière certaine. Disent-ils, on ne sait pas qui est ce Jean. Et donc, comme Denis d'Alexandrie le disait, c'est peut-être l'évangéliste Marc ou bien le mystérieux prêtre Jean. Il y a d'autres pères aussi, d'autres auteurs chrétiens anciens qui témoignent en faveur de l'attribution à Jean l'évangéliste et apôtre et évangéliste du livre de l'Apocalypse, comme Éphrem le Syrien, comme Lactance, comme Épiphane de Salamine, Basile de Césarée, Grégoire de Nice, Hilaire de Poitiers. On pourrait sûrement en citer encore d'autres, mais je m'arrête là. Donc vous voyez qu'il y a une quasi-unanimité de témoignages patristiques en faveur de l'attribution à Saint Jean, apôtre et évangéliste, du livre de l'Apocalypse, du dernier livre de la Bible chrétienne. Donc qu'est-ce qu'il y a au cœur de ce livre de la révélation donnée à Jean par Jésus? Qu'est-ce qu'il y a comme au centre de ce livre? Eh bien, c'est la révélation du second avènement de Jésus-Christ à la consommation des siècles et des événements qui doivent accompagner ce second glorieux, et on pourrait ajouter redoutable nouvel avènement du Christ Seigneur à la consommation des siècles. Et dès les premiers versets du premier chapitre, cette idée, eh bien, elle est présente. Heureux celui, je cite verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. C'est la fin du verset 3 du premier chapitre. Et on remarquera que c'est ici la première des sept béatitudes du livre de l'Apocalypse. On va voir qu'il y a dans l'Apocalypse sept béatitudes. Alors je voudrais lire déjà le début jusqu'au verset 10 pour qu'on ne se perde pas avant d'en venir au plan proprement dit tel que le livre nous propose, mais ce prologue en quelque sorte il est déjà à lui-même un résumé de tout ce qui va suivre. Alors, les versets 1 à 10. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Arriver bientôt. Il faut bien retenir cette expression. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Verset 1, les choses qui doivent arriver bientôt. Au verset 3, car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie. J'en ai évoqué là, les sept églises qui font l'objet du message. Et on viendra en détail sur ce message très important. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, tout œil le verra. Mais ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont percé, sous-entendu à la crucifixion, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, donc le Pantocrator. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Bon, je ne vais pas plus loin, mais c'est... On ira plus loin, bien sûr, dans le texte, mais donc là, vous avez déjà, en quelques lignes, l'essentiel de ce qui nous est dit dans le livre de l'Apocalypse. Donc, j'ai dit que, il y a une distinction à faire entre les évangiles et l'Apocalypse, une première distinction, bien qu'elle soit déjà aussi présente dans les évangiles, mais là, elle éclate à nos yeux, à notre vue. Nous sommes ici en présence de la seconde venue du Seigneur. Cette venue, elle se fait dans la gloire. La gloire de celui qui est époux de l'Église, laquelle, bien sûr, le reconnaît comme son Seigneur, comme son Maître. Cette différence, elle tient à quoi? Elle tient au fait que les évangiles nous rapportent tout le dessein du Père accompli par le Christ en vue de notre salut. Donc, c'est l'abaissement, c'est celui qui vient jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à lui. C'est le Verbe de Dieu qui est dans le sein du Père depuis toute éternité et qui s'abaisse jusqu'à nous, qui prend notre humanité, vrai Dieu et vrai homme, inséparablement, sans confusion ni séparation, comme dit le canon du Concile de Chalcédoine. Mais, alors, donc, les évangiles nous narrent cette période de l'abaissement du Christ, nous rapportent les paroles du Seigneur, nous raconte les faits et gestes du Seigneur dans l'accomplissement de toutes choses, dans l'accomplissement du dessein de Dieu pour notre salut. Et l'Apocalypse, elle, donc là, on est dans un premier temps, on est dans le temps de l'abaissement, de l'humiliation, le Verbe qui s'avait jusqu'à nous, comme je l'ai dit, et dans l'Apocalypse, au contraire, c'est la venue dans la gloire. Cette gloire qui se manifeste par l'établissement du règne du Christ. Mais aussi, il y a d'autres éléments qui décrivent cette gloire. Par exemple, on le verra plus tard, dans la Jérusalem d'en haut, il n'y a plus de temple, parce que la lumière du Christ, la lumière de Dieu et de l'agneau, emplissent la totalité de la Jérusalem céleste. La présence, la lumière c'est aussi la présence, emplissent la totalité de la Jérusalem céleste. Elle n'est plus circonscrite dans le temple de la première alliance. Alors, tout au long du livre, cette seconde venue est présente jusqu'à l'épilogue, justement, qui fait écho au prologue, au premier verset que je viens de lire, et qui rappelle également ce propos qui revient, « Voici, je viens bientôt. » 22.7, 22.12 et 22.20. Donc c'est répété par trois fois. Je vais les citer. Verset 7, chapitre 22. Hein. « Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Verset 12. « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Verset 20. « Celui qui atteste ces choses dit, je viens bientôt. » Donc, vous voyez le balancement entre l'épilogue et le prologue dont je viens de citer les premiers versets. Alors, maintenant, voyons sommairement quel est le plan suivi par le livre de l'Apocalypse, par la prophétie de l'Apocalypse. Parce que il y a un plan, c'est pas du tout quelque chose de désordonné. La première partie concerne ce que Saint Jean a vu, a contemplé, et qui concerne les événements d'aujourd'hui et ceux à venir, aujourd'hui pour lui, hein, bien sûr. D'abord, donc, ce prologue, hein, les huit premiers versets. Alors, outre ce prologue que nous venons de voir, il y a une adresse à celles qui sont l'objet, j'ai cité le verset tout à l'heure, qui sont l'objet de la prophétie dans cette première partie. Les sept églises dont il va être question. Je cite Jean aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix, vous avez entendu donc la citation du verset il y a quelques instants où il est parlé de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Verset 4. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc, suit l'annonce de la venue dans la gloire au verset chapitre 1, verset 7 et 8, où le Christ dit de lui-même « Je suis l'alpha et l'oméga », première et dernière lettre de l'alphabet grec, comme nous le savons tous. « Celui qui était, qui est et qui vient. » Le Tout-Puissant, le Pantocrator. Donc là, on a une affirmation sans ambiguïté de la souveraineté du Christ sur tout ce qui existe, la souveraineté éternelle du Christ. celui en qui rien n'échappe à sa souveraineté, à sa domination. Ni les hommes, ni la création, ni les événements du passé, ni les événements du jour, ni les événements à venir. Donc, la vision inaugurale de l'Apocalypse, c'est la vision que Jean, qui est prisonnier au bagne de Patmos, a du Christ glorifié. D'entrée de jeu, c'est la vision du Christ glorifié qui lui commande ainsi « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Et l'apôtre Jean poursuit « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. » Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Là, c'est toujours au premier chapitre, les versets 11 à 16. Qui sont vraiment très importants parce qu'ils décrivent les différents aspects de la personne du Christ. Alors, lorsque Jean a cette révélation, il est conscient. Il n'est pas dans un rêve, il n'est pas dans un songe, il est conscient. Et il lui est donné de contempler cette vision. Il dit d'ailleurs, au verset 10, « Je fus saisi par l'Esprit » au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte. » Et on verra plus loin d'ailleurs que ce jour du Seigneur est à double, voire triple entente. Bien sûr, il y a une acception que nous connaissons tous, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, le huitième jour. Donc, ceci nous est connu. Ce sont nos dimanches dans l'année, qui sont des jours de résurrection. Nous fêtons la Pâque du Seigneur, non pas simplement à la grande solennité de la Pâque, qui vient au terme de la semaine de la Sainte Passion, mais nous fêtons la résurrection, le Christ ressuscité, tous les dimanches de l'année. Ça, c'est une première acception, mais aussi, et c'est ce qui explique « Je fus saisi par l'Esprit ». Le jour du Seigneur, c'est le jour de l'avènement plénier du royaume, de la consommation des siècles, de la disparition des temps présents, de l'advenue de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, et de la venue du jugement, de la résurrection générale et du jugement. C'est-à-dire, c'est le jour de Dieu, en fait, dont on parle également, d'ailleurs, je le rappelle, dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas propre au Nouveau Testament. Donc c'est une autre acception, et c'est dans cette acception-là qu'il faut comprendre ce verset. C'est-à-dire que Jean est saisi par l'Esprit, et l'Esprit lui fait voir, par révélation de Dieu, cette réalité ultime à la consommation des siècles. Et la voix forte, justement, la voix forte, manifeste la solennité du moment de cette révélation, en même temps qu'elle manifeste la souveraineté du Christ, sa domination sur tout. Alors vous avez remarqué, à la citation de ces versets que le chiffre 7 revient à de multiples reprises, et je reviendrai sur la symbolique du chiffre 7 dans l'Apocalypse. Et là, qu'est-ce que c'est que ces sept chandeliers dont on a parlé? Eh bien, c'est la lumière des sept églises, c'est la lumière de la vie du Christ, et ça indique une plénitude. Hein, le chiffre 7, dans la tradition biblique, ça indique une plénitude. Donc, le message qui est adressé aux sept églises, par-delà ces sept églises, s'adresse à la totalité des églises du Christ répandues à la surface de la terre. Bien sûr, il faut voir ça comme une totalité, là aussi. Et l'expression « fils d'homme » est employée dans ces versets. Comme cette expression, elle est très courante dans les évangiles. Je crois qu'elle est employée 80 fois. Mais elle est aussi dans l'Ancien Testament, en particulier dans la prophétie de David. Et vous voyez, par exemple, dans la vêture de celui qui se dévoile, la vêture de ce fils d'homme qui se dévoile, eh bien, il est très clairement, je pense, fait référence à la vêture du grand prêtre. Donc, le Christ est là, dévoilé, manifesté comme grand prêtre des biens à venir, selon une expression que nous trouvons dans les Épîtres. La tunique sacrée de lin dont il est question, on la retrouve aussi en Lévitique 16:1-4 à propos de la vêture du grand prêtre de la première alliance d'Aaron, le frère de Moïse. Et la laine blanche est semblable à une lumière éclatante, semblable au verset de la prophétie de Daniel, chapitre 7, verset 9, qui concerne cette fois l'Ancien des Jours. Je cite, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des Jours s'assit, ses vêtements étaient blancs comme de la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. » Donc Daniel 7, 9. Enfin, je ne vais pas citer la totalité du passage, mais vous y référerez sans problème. Les pieds d'airain auxquels il est fait mention, eh bien, ils sont de la même matière que l'autel des holocaustes. Hein, et ils sont la marque de la puissance, de la souveraineté. Et ils sont toujours liés dans l'Écriture sainte au jugement. Hein, il faut s'en rappeler de ça. Et puis, les grandes eaux, eh bien, elles sont une marque d'autorité. Alors, il y a l'évocation également de l'épée à deux tranchants. Qui est également lié au jugement. Alors, il y en a une qui... Alors, je ne me souviens pas des deux termes. Je n'ai pas amené mon Nouveau Testament grec, ce qui est une négligence de ma part, mais la fois prochaine, je l'aurai, et puis on en reparlera, parce qu'il y a deux mots qui décrivent cette épée. Il y a l'épée à deux tranchants qui nous renvoie à l'Écriture Et puis, il y a la grande épée, celle qui opère le jugement. Mais je reviendrai là-dessus. Tout ça, ce sont des éléments de la vision qui nous renvoient toujours à la souveraineté de celui qui se dévoile et au fait qu'il est le maître du jugement. Les sept étoiles, eh bien, ça nous renvoie aux sept églises qui sont dans la main du Seigneur. Et comme il est le souverain, comme il est le maître, comme il est l'époux de l'Église, eh bien, il va s'adresser à eux avec pleine autorité. Que fait Jean devant cette grandiose vision? Je vous invite à relire ce premier chapitre et en particulier les premiers versets. On est en face d'une grandiose vision. Eh bien, Jean, il est en quelque sorte saisi d'une terreur sacrée. Vous vous souvenez, hein? C'était la même situation lorsque sur la montagne de la Transfiguration apparaissent deux personnages, Élie, la prophétie, Moïse, la loi, qui s'entretiennent avec le Christ. Et le Christ qui apparaît, à la fois son visage et son vêtement sont d'une lumière que les yeux de chair ne peuvent pas supporter. C'est la lumière incréée. C'est la lumière divine, c'est la lumière incréée. C'est pas n'importe quoi. Et donc, les trois disciples qui sont là, eh bien, ils tombent prosternés face contre terre. Voilà, dans cette vision, à nouveau, eh bien, le disciple et apôtre Jean, qui se prosterne, il est saisi d'une crainte sacrée. Ce mot de crainte que nous retrouvons dans nos textes liturgiques, ce mot de crainte que nous retrouvons dans de très nombreux commentaires patristiques, et dont je rappelle que ça n'a rien à voir avec une crainte ou une peur de type psychologique. C'est la crainte sacrée qui fait que nous sommes conscients de la distance qui nous sépare de l'absolument saint, cette distance immense où d'un côté il y a l'absolument saint et de l'autre côté il y a l'homme pécheur. Donc voilà. Et la conscience de cette distance, d'ailleurs, comme nous dit Saint Jean Chrysostome, elle met en chemin. Elle met en chemin. À partir du moment où nous sommes conscients de cette distance, évidemment, nous acquérons la crainte de Dieu, nous acquérons la sagesse, comme disent les livres Sapientio, le prologue, les proverbes, le livre de la sagesse de Salomon, le livre de la sagesse de Jésus ben Sira. Bon, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, l'acquisition de cette crainte, eh bien, elle nous met en mouvement, parce que nous prenons à ce moment-là conscience de ce que nous sommes véritablement, et nous désirons, au contraire, marcher vers Dieu, donc de nous défaire dans la contrition, de nous défaire de tout ce qui nous sépare de lui, dans la purification du cœur, de l'âme, de nous défaire de ce qui nous sépare de Dieu, donc par l'ascèse. L'ascèse, c'est l'effort. Voilà, donc, Jean, devant cette vision grandiose, eh bien, il tombe la face contre terre, et à ce moment-là, il reçoit une parole. il reçoit une parole. Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est au verset 18. Donc c'est le Christ qui s'adresse à lui. Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Premier et dernier, ça fait écho aussi à une parole d'Isaïe, chapitre 44, verset 6. Ainsi parle le Seigneur, roi d'Israël et son Rédempteur, le Seigneur Sabaoth. Sabaoth, c'est les armées célestes. Le Seigneur Sabaoth, je suis le premier et le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Isaïe 44, 6. Et donc, en prenant à son compte ce titre de premier et dernier, eh bien, que fait le Christ, sinon proclamer sa divinité. Et par conséquent, puisqu'il est Dieu, il a souveraineté sur tout, et il a souveraineté sur la vie et sur la mort. Alors, à cette vision grandiose succède la mission donnée à Jean, à partir de, toujours en premier chapitre, versets 19 et 20. Parce que c'est quoi la mission de celui qui a reçu cette vision, Jean ? Eh bien, c'est d'en rendre compte. La vision, elle n'est pas pour lui seulement. Elle est pour lui, mais au bénéfice de la multitude. Et donc il doit en rendre compte, il doit rendre compte de ce qu'il a vu, de ce qu'il a contemplé des choses passées et des choses à venir. Et ainsi ça permet de voir, quand on continue sur l'organisation générale du texte, qu'il y a deux grandes parties. La première, ce sont donc les épîtres adressées aux sept églises, donc du chapitre 2, verset 1, au chapitre 3, verset 22. Et la deuxième partie, ce qui doit advenir, les sept visions que Jésus-Christ fit contempler à saint Jean, donc ça, c'est ce qui doit advenir. C'est ce que Jean a contemplé quand il a été saisi par l'Esprit et qu'il a été transporté au jour de Dieu, selon l'acception que j'ai donnée tout à l'heure. Ce qui doit advenir, donc, à la consommation des siècles. Donc, du chapitre 4, verset 1, au chapitre 22, verset 5. Et bon, ça c'est les deux grandes parties qui sont suivies de l'épilogue, chapitre 22, verset 6, à 22, verset 21. Donc, je rappelle, tout le grand prologue, avec en particulier donc les 11 premiers versets, mais le grand prologue de tout le premier chapitre. Ensuite, ce qui est la situation, le Christ révèle à saint Jean l'état des sept églises qui ont été nommées tout à l'heure, qui sont nommées dans le texte, bien sûr. Donc, chapitre 2, verset 1 à 3, 22. Ensuite, les sept visions que le Christ fait contempler à Jean au jour de Dieu. Donc, chapitre 4, verset 1 à 22, 5. Et, pour terminer, l'épilogue, chapitre 22, 6 à 22, 21. on pourrait aussi subdiviser plus avant, et j'y viendrai la prochaine fois, donc en particulier la deuxième partie qui est la plus conséquente, donc 4.1 à 22.5, il y a des subdivisions à mentionner. Alors, j'ai dit tout à l'heure, j'ai cité, on va voir que comment cette révélation rend compte de la personne du Christ. Et, mais avant, j'ai parlé des béatitudes de l'Apocalypse. Donc on a parlé tout à l'heure, employer l'expression de béatitude de l'Apocalypse. Elles sont au nombre de 7. Et il vaut la peine de les mentionner. La première, je vous l'ai citée tout à l'heure, je rappelle, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » La deuxième, donc là, c'est plus loin dans le corps du texte, c'est au chapitre 14, verset 13, « Ne pas perdre de vue, c'est cette béatitude, c'est pourquoi je vous rappelle où on les trouve. » Donc, la première, chapitre 1, verset 3, chapitre 14, verset 13, la troisième, la quatrième, chapitre 19, verset 9, la cinquième, chapitre 20, la sixième, chapitre 22, de commencement et puis on peut repérer un certain nombre d'éléments dans ce sur d'abord la Genèse, l'Apocalypse au contraire se termine avec la consommation des siècles. Donc dans Genèse 1, dès les premiers versets, création du monde, donc où Dieu crée, fait venir du néant à l'existence, est absolument souverain, et il crée ex nihilo, à partir de rien. Ne crée pas à partir d'une matière préexistante, comme le pensaient les anciens Grecs, il crée, car il est l'incréé, il est le Tout-Puissant, et il a le pouvoir de créer à partir de rien. La Genèse, la création, où Dieu opère, de manière voilée bien sûr, mais bien présente les trois personnes de la divine Trinité, Dieu le Père, qui n'est pas un attribut mais une personne, son Verbe et l'Esprit qui planait au-dessus des eaux, comme il nous est dit. Et à l'autre bout, il y a la consommation des siècles, le jour de Dieu, tel qu'il est dit au chapitre 20, verset 11 dans l'Apocalypse. Puis je vis un trône blanc très grand et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face sans laisser de traces. Donc ça veut dire quoi? Il y a la disparition de l'ancienne création et apparition de la nouvelle. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu. Deuxième proposition d'éléments, parce que j'en ai repéré 8, mais on peut en trouver assurément plus. c'est dans la Genèse, Satan, par l'intermédiaire du serpent, eh bien, il séduit les premiers hommes. Ceci nous est dit en Genèse 3. Et au contraire, dans le chapitre 12, à partir du verset 9, mais également dans le chapitre 20, verset 10, ça c'est dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, dans la vision de la femme et du dragon, les anges de l'archange Michael, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et puis, 20, 10 nous dit « Alors le diable, leur séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, y rejoignant la bête et le faux prophète, et leur jour et nuit. » Deuxième correspondance, les deux livres, chacun à l'autre bout du livre de l'Écriture. Dans la Genèse, le péché, donc la transgression d'Adam, entraîne l'interdiction de l'accès à l'arbre de vie, et la transgression a comme conséquence l'expulsion d'Adam. L'héritage pour les successeurs d'Adam et de Ève de la nature déchue, le péché d'Adam et Ève, il est personnel, mais tous les hommes, à cause de la transgression d'Adam, héritent de la nature déchue et sont amenés également à transgresser les commandements de Dieu. Ça, c'est en Genèse 3, mais dans le livre de l'Apocalypse, que dans tous ceux qui sont inscrits au livre de vie pourront manger de l'arbre de vie. Chapitre 22, verset 2. Rien d'impur n'entrera dans la ville, rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui commettent le mal et l'abomination. Dans le livre de vie de la nuit. Donc, le jour de Dieu, c'est aussi où les paix opèrent une séparation entre le bon grain et l'ivraie, entre les justes et les injustes, entre ceux qui sont comptés au bénéfice de la promesse et ceux qui sont les réprouvés. Et comme ceux qui sont enlevés dans le sein d'Abraham et ceux qui sont les réprouvés et qui sont dans les enfers. Soumis aux tribulations de l'enfer. Et ceci pour les siècles des siècles, comme il est dit dans l'Écriture. Quatrième rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui commettent le mal et l'abomination, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est 21-27 dans l'Apocalypse. Le cinquième élément, c'est donc la transgression d'Adam, l'héritage de la nature déchue. Le salaire du péché, c'est la mort, comme dit saint Paul à la suite donc, de Genèse 3,19. Et dans la nouvelle création de l'Apocalypse, la mort est anéantie. Il essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus. Chapitre 21, verset 4. Sixième élément, à cause de la transgression dans la Genèse, il est dit que l'homme est loin de la présence de Dieu. L'entrée de l'Éden est gardée par les anges avec leurs épées. Donc l'homme est chassé loin de Dieu, Genèse 3, 22-24. Et au contraire, dans la nouvelle création, on voit Dieu face à face. J'ai presque fini là. Je cite 22-4, « Ils verront sa face ». Avant-dernier élément, la Genèse décrit la rébellion des hommes de Babel contre Dieu, donc en Genèse 11. Et au contraire, donc, dans l'Apocalypse est décrite la destruction future de Babylone, qui est le symbole de la ville qui s'érige contre Dieu. 17.1 et 19.3. Et dernier élément, dans la Genèse, l'homme perd la domination qui lui a été donnée. Vous connaissez tous ce récit. Donc, a contrario, dans l'Apocalypse, les rachetés, eh bien, ils sont appelés à régner avec le Seigneur éternellement. Et c'est pour ça qu'en 20, 4 et 6, il est dit « Heureux et saints, ceux qui participent à la première résurrection, le Seigneur répandra sur eux sa lumière et ils régneront pour les siècles des siècles. » Voilà. Alors, ces éléments ayant été rappelés, donc je vous répète que je ferai un plan de secours, un texte du plan de secours avec les références bibliques que je mettrai sur le site. Ensuite, donc, comme ce cours a tourné très essentiellement, hormis ces rappels, des béatitudes que l'on trouve dans l'Apocalypse et des correspondances avec la Genèse, ancienne création, nouvelle création, et donc tout ce qui va des commencements à l'accomplissement final. Donc, hormis ces éléments, là, je vais parler essentiellement de ce qui relève des éléments de la vision inaugurale à laquelle Jean est mis en présence, vers laquelle Jean est mis en présence, saisi par l'Esprit, comme je l'ai dit, qui l'emmène loin, bien sûr, au jour de Dieu. Donc, la prochaine fois, nous entrerons dans la deuxième partie, qui est le récit des visions, enfin pas des visions, mais ce qui est dit par le Seigneur des sept églises qui ont été mentionnées. Et nous verrons que les leçons qui se dégagent de ces paroles du Seigneur aux sept églises de l'Asie proconsulaire, eh bien, elles sont à la fois des leçons délivrées aux églises du temps de la révélation de l'Apocalypse, mais elles transcendent ce temps. Elles sont des leçons pour les églises de toutes les générations. Voilà. Merci de votre attention.